Wake Up le show du lundi au vendredi de 6h à 10h. On est là depuis 2005. On en a fait un sapristi de bout de chemin. C'est vraiment le cas de le dire. Des intervenants tels que Maurice Gédantec de France ou encore que ce soit justement Badachtung-Gofting. Lui, là, il était écœurant. Il était écœurant, bien sûr. Je l'ai inventé sur le coin de la table. Comme ça, mais bon, c'est toujours sympathique de rentrer des mots un peu comme Grégory Charles avec Quintet, de trouver ça super drôle comme mot de vocabulaire. Je trouve que ça s'appelle de la folie, ça, par exemple. Alors, Radio-Canada, là, c'est plate. C'est vraiment inutile. Monsieur Reichmann, bonjour! Attendez un instant. Est-ce que Monsieur Reichmann nous entend? Nous allons établir la communication dans quelques instants avec Monsieur Reichmann, Claude Reichmann. Pour parler de divers sujets, bien entendu, surtout, bien sûr, des sujets qui concernent la France, mais qui, si vous faites un bon parallèle, vous allez voir, le parallèle est fort simple. Transposez les problèmes qu'il y a en France et vous allez étrangement retrouver des problèmes qu'on a ici. C'est simple.
Oh oui.
C'est très simple. C'est parce que nos élus font des petits voyages à gauche et à droite en Europe.
À nos frais.
Oui, et fréquemment. C'est commun, là.
On crée des commissions qui coûtent juste ben de l'argent puis qui servent à rien.
Ben, eux aussi ont leur commission. Je me rappelle plus c'est quoi le nom exact de la commission, si M. Reichmann m'entend. Le nom de la commission qui avait eu lieu, qui ressemble un peu aux accommodements raisonnables,
oui.
Mais qui était de vraiment... cette commission s'appelle ici en ce moment la commission Bouchard-Taylor, OK? Tandis que... du côté de...
Enfin... Voilà, je vous entends.
Ah bon, bonjour, M. Reichmann. Oui, on vous entend bien.
Bonjour, M. Trépanier. Bonjour, voilà, je vous entends. Le micro est branché et j'ai entendu ce que vous avez dit. Alors, il paraît que nous avons des ressemblances entre la situation canadienne et la situation française, disiez-vous.
Oui, je trouve ça spécial. Ben, surtout la société québécoise, parce que, bon, le reste, c'est le Canada anglais. C'est ces gens qui nous méprisent. Non, je blague, c'est pas vrai. C'est oui. Parce que la loi... C'est du cynisme là, ici, là, parce qu'il y a beaucoup de gens ici au Québec qui détestent l'anglais au plus profond d'eux-mêmes. Et ils ont instauré la loi 101 pour être sûr et certain que nous, bons petits Québécois, soyons le plus stupides possible et restions cancres avec une seule et même langue. Le français, je dis pas que le français est mauvais, là. Je fais simplement dire que c'est bien d'avoir plus d'une langue, qu'on soit capable de se débrouiller dans d'autres langues aussi que seulement celle du français, là, M. Reichmann.
C'est un enrichissement de toute façon de parler plusieurs langues, mais il n'est pas mauvais de défendre la sienne.
Tout à fait.
C'est un envahissement excessif, voilà, c'est tout. Je crois que vous avez exprimé un point de vue ouvert et c'est le meilleur, me semble-t-il. Hein.
Oui, tout à fait. Et par exemple, vous de votre côté, est-ce que vous croyez, par exemple en France, M. Reichmann, est-ce que vous croyez que la langue française est menacée ou pas du tout?
Non, elle ne l'est pas du tout.
Absolument pas.
Si elle est menacée, elle est menacée par elle-même ou par ceux qui la pratiquent et qui la pratiquent mal. En raison d'un système scolaire qui enseigne mal le français, comme d'ailleurs le reste des autres disciplines, mais le fait que les langues se mélangent n'est pas une nouveauté. C'est le français d'ailleurs lui-même est né d'un mélange, d'une déformation du latin, et puis d'autres langues sont venues y apporter leurs ajouts. Mais le vrai problème, si l'on veut défendre une langue, en réalité, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le rayonnement économique et l'importance du pays. Il est évident quand vous avez un pays qui représente, comme la France, 62 millions d'habitants, et de l'autre côté, vous avez un monde anglophone qui représente au minimum 500, 600 ou 700 millions de personnes, il est évident que la langue est pratiquée par plus de monde, que dans les affaires, ces pays sont dominants, on a tendance à adopter la langue du pays dominant, donc ça c'est un élément auquel on ne peut pas grand chose, et rien de ce que l'on peut faire en matière de défense ne remplacera le fait que la prédominance économique d'un pays fait que sa langue domine. Le français a dominé l'Europe et le monde au XVIIe siècle et en partie au XVIIIe. Elle est même restée la langue diplomatique dans les siècles suivants jusqu'à une époque récente, tout simplement parce que la France était un des plus importants pays du monde et qu'elle est importante sur le plan économique. Ça, c'est un premier point.
Oui.
Le deuxième point est évidemment celui de la pratique même de la langue. Et lorsque, pour qu'une langue soit bien pratiquée, il faut d'une part qu'elle soit bien enseignée, c'est-à-dire que les professeurs, les instituteurs l'enseignent convenablement et dans des conditions qui permettent aux jeunes élèves de se l'approprier. Et puis il y a aussi le phénomène familial. Si l'on parle bien dans une famille, on voit que les enfants la parlent bien aussi.
Exactement.
Voilà, ce sont les raisons principales.
Mais je trouve que, par exemple, ici, c'est sûr que de votre côté, je m'en doutais un peu que vous êtes loin d'avoir ces histoires que l'anglais nous envahit. Bon, on est 7 millions de population sur...
Sur 20 millions au Canada et sur plusieurs centaines de millions dans l'ensemble du monde anglophone.
Et voilà.
Personnellement, je parle l'anglais et l'espagnol et j'ai parlé allemand depuis mon enfance, même si je ne me pratique plus maintenant parce que je n'en ai pas l'occasion, mais oui. Je n'ai jamais senti que ça nuisait en quoi que ce soit ma pratique du français. Au contraire, je pense que c'est un enrichissement.
Ici, je vous dirais, par exemple, si je vous nomme le Parti québécois qui est souverainiste, qui demande absolument, mais qui crie au scandale à toutes les fois qu'ils peuvent apercevoir dans une vitrine de magasin, je sais pas moi, for rent, à louer, ou encore for sale, ou des choses comme ça. Ils crient au scandale en disant que l'anglais menace de plus en plus le français, chose qui est totalement fausse, et qui est véhiculée, qui est totalement fausse, M. Reichmann, et pendant pendant plus d'une décennie, même je dirais deux, et voire trois décennies exactement, les jeunes, aujourd'hui, vous seriez déçus. M. Reichmann, vous seriez déçus de voir et d'entendre les jeunes qui ont... ça s'applique aussi à moi. Je suis capable de me débrouiller, je suis un homme d'affaires, je suis capable de me débrouiller en anglais, mais bon sang, j'aimerais être encore meilleur que je le suis en ce moment, à l'heure où est-ce que je vous parle. J'aimerais être beaucoup plus instruit au niveau de la langue anglaise et aussi dans d'autres langues, parce que il me semble que la logique même, c'est plus vous êtes capable de parler de langue, plus vous êtes polyvalent et vous êtes en mesure de mieux vous présenter partout à travers le monde.
Exactement. Là, je pense que c'est ce que vous venez de dire me paraît l'expression même du bon sens.
Et oui.
Je pense que c'est un enrichissement. D'ailleurs, vous savez, les langues, c'est comme la mémoire. Plus vous avez à faire, plus vous avez de mémoire. Et plus vous parlez de langues, plus vous avez de capacité à les parler de manière à la fois efficace, compréhensible, et plus vous avez le plaisir de parler votre propre langue. Parce que finalement, fait de parler, de comparer avec d'autres langues, vous fait davantage apprécier la vôtre.
Aussi.
Surtout quand c'est une langue comme le français, qui est, je ne le dis pas par chauvinisme, c'est vraiment une très belle langue, une langue équilibrée, une langue sans accent, ce qui ne veut pas dire que l'accent est une mauvaise chose en soi, mais c'est une langue très harmonieuse, le français. Et je vais vous faire une confidence, c'est que je n'ai jamais cessé d'avoir plaisir à entendre parler le français. Ça peut paraître curieux parce que la plupart des gens ne se rendent même pas compte du bonheur qu'ils ont lorsqu'ils pratiquent une belle langue qui est la leur, de l'entendre. Et personnellement, je me régale à entendre parler un beau français. Et je crois que chacun peut se régaler à entendre parler une langue. D'ailleurs, vous savez, Paris est une ville où il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes, etc. Et j'entends autour de moi, quand je sors, parler beaucoup de langues. Alors, je ne voudrais pas être désobligeant à l'égard des autres langues. Il y en a qui sont très belles, mais il y en a qui vraiment n'arrivent pas à la cheville du français ou de l'espagnol ou même de l'anglais ou de l'italien.
Oui.
Vous avez certaines langues qui sont rugueuses, qui sont un petit peu gutturales, qui sont aboyées même parfois. Et je me dis, je n'ai pas l'ombre d'un mépris pour ces gens-là, au contraire, je pense qu'il faut accueillir tout ce qui mérite d'être entendu. Mais franchement, quand on a la chance de parler une des très belles langues que je viens de citer, c'est un régal de l'oreille,
exact.
Et c'est un régal même de poésie, car je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais personnellement, je préfère souvent la prose à la poésie. Non pas que je n'aime pas la poésie.
Moi aussi.
Mais j'adore la prose, je trouve qu'une belle prose, c'est quelque chose de magnifique, et bien entendu, de grands écrivains ont une prose sublime, mais souvent, même dans la rue, comme ça, au comptoir d'un bistrot, vous entendez des gens parler d'une manière parfois un peu populaire, mais souvent très, très, très expressive et qui en acquiert un contenu poétique qui est vraiment extraordinaire.
Une saveur qu'on ne peut pas retrouver au niveau de la poésie, là, M. Reichmann.
Exactement.
Je trouve
et
que...
En plus, vous savez, à une époque où tout le monde a du mal à joindre les deux bouts, ce que nous proposons en ce moment, c'est tout simplement un plaisir gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien d'écouter les autres.
Exact. Ben, jusqu'aux dernières nouvelles, ça coûte. Ben, enfin, ça dépend qui exactement.
Oui, bien sûr. Enfin, si on adopte la définition que vous venez de donner, c'est un plaisir pour pas un rond.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on se rejoint sur ce point-là, M. Reichmann. Et peut-être tomber un peu sur l'actualité, l'Arche de Zoé. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'Arche de Zoé? Pouvez-vous m'expliquer?
Oui. Alors, non seulement ça me dit quelque chose,
ah, oui.
un article intitulé sur mon site www.claudereichmann.com avec la France de Sarkozy, la prise d'otage, ça marche. Parce qu'il s'agit d'une affaire qui a évidemment défrayé, qui continue de défrayer la chronique en France, et qui est une affaire extrêmement grave. Il s'agit, si vous voulez, d'une prise d'otage, alors non pas de la part de l'association en question, mais de la part du gouvernement tchadien de M. Idriss Déby. Parce que quand on connaît un petit peu le détail de cette opération, on s'aperçoit que les membres de cette association ont sans doute été naïfs, sans doute maladroits, peut-être mal intentionnés, je ne sais pas, je ne crois pas, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont transporté des enfants depuis une ville frontière entre le Tchad et le Soudan qui s'appelle Adré.
Okay.
Et ils les ont transportés par petits avions, il y avait 5-6 places dans les avions, jusqu'à Abéché, où ils se trouvent actuellement, qui se trouve au nord, au nord-est de la capitale du Tchad, qui l'ancienne N'Djamena, plutôt ça s'appelle N'Djamena, c'est l'ancienne capitale du Tchad, donc qui est toujours la capitale du Tchad. Alors N'Djamena, donc, est l'endroit où ils doivent être transférés, mais ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, ces humanitaires, même s'ils sont amateurs, ont été transportés par l'armée française. D'autre part, l'aéroport d'Adré, qui est un tout petit aéroport et qui est sous le contrôle des autorités tchadiennes,
oui,
ne peut pas laisser passer en permanence des petits avions qui transportent des enfants. Bon, ça s'est fait au vu et au su des autorités tchadiennes. Et ensuite, tout d'un coup, on a vu les autorités tchadiennes se mettre à hurler « Comment on enlève des enfants ?» Or, embarqué, il leur a été confié même à cette association par des familles. Et donc, tout ceci, si vous voulez, est une espèce de prise d'otage contre la France, qui est destinée, dans l'esprit de M. Déby, qui est le président du Tchad,
oui,
à faire pièce à la constitution d'une force européenne d'interposition au Darfour, entre le Tchad et le Darfour.
Okay.
M. Déby y est hostile parce que c'est son territoire d'influence, et il voulait se donner des armes contre la France.
Il
a trouvé très habile finalement d'utiliser sans doute la naïveté, la maladresse ou l'inconscience, je ne sais pas, on le saura lorsqu'il y aura plus de moyens de savoir ce qui s'est passé réellement, de cette association L'Arche de Zoé, et il a littéralement pris en otage ces personnes, l'équipage espagnol de l'avion, deux ou trois journalistes français qui s'y trouvaient également, et il les a accusés des pires maux de la terre,
exactement,
d'organes, etc.
Tout à fait, parce que ici, vous voyez, j'ai un article qui est de notre média Radio-Canada, oui, paye avec nos impôts, Radio-Canada, qui parle d'escroquerie sur des enlèvements de mineurs et escroquerie, oui, visant 9 Français, soit 6 membres de l'association de l'Arche de Noé, de oui, 3 journalistes également, 7 Espagnols, membres de l'équipage de l'avion de transport, ont été accusés de complicité. Vous me dites que c'est exagéré, que c'est en réalité...
Ça n'est pas exagéré, c'est radicalement faux.
Ok, c'est radicalement faux. Parfait, oui, c'est ça que je me demandais.
Il faudrait quand même que Radio-Canada se renseigne un petit peu pour de recopier
et voilà,
de reproduire les propos. Remarquez que la radio française ou la télévision française est justiciable du même reproche. Elle raconte n'importe quoi. Le problème n'est pas de savoir si les gens de l'Arche de Noé ont des intentions pures ou impures. Le problème... Et personnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt des gens naïfs qu'autre chose.
Mais parce que, si je vous interromps, oui, un instant, j'ai lu des médias français et déjà, je sentais qu'il y avait une meilleure compréhension du dossier que nous, de notre côté, avec Radio-Canada ou encore un peu avec TVA, qui raconte pratiquement n'importe quoi, qui qualifie pratiquement les individus, qui traite les individus comme le président du Tchad le fait.
Oui, c'est-à-dire que les médias sont suivistes.
C'est pathétique, là. C'est vraiment pathétique.
C'est réellement pathétique parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, je n'ai rarement vu, je n'ai même jamais vu une telle maladresse diplomatique que celle des autorités françaises. Bon, quand cette affaire a éclaté, immédiatement, on a vu les autorités françaises accabler les membres de l'Arche de Zoé comme pour retirer leurs propres responsabilités, mais c'est extrêmement grave. Quand vous avez des compatriotes qui sont mis en danger, quelles que soient les raisons de ce danger, dans un pays étranger, la tâche majeure, immédiate d'un gouvernement responsable, c'est de se porter à leur secours, quitte ensuite, s'il y a des fautes commises, ou s'il y a même des délits ou des crimes, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, à les sanctionner, ou à les faire sanctionner. Mais dans le cas présent, nous n'avions aucune information de quelque sorte que ce soit, sauf les propos du gouvernement tchadien, dont on sait qu'il est manipulé, enfin qu'il manipule et qu'il est animé par des intentions pour le moins impures en ce qui concerne ses relations avec le gouvernement français et les gouvernements européens. Donc, il faut quand même savoir également que ce gouvernement est entièrement entre les mains de la France, puisque il y a des rébellions, il y a plusieurs rébellions au Tchad, et il faut savoir que M. Idriss Déby est lui-même a été amené au pouvoir par une rébellion qu'il commandait contre M. Hissène Habré, qui était l'ancien président de ce pays, et que c'est la France qui lui a permis de venir au pouvoir. Et il faut savoir également qu'actuellement, la France a, au Tchad, plus de 1000 hommes, une force aéro-terrestre, et que sans cette force, le régime s'effondrerait aussitôt, parce que c'est les Français qui transportent les militaires tchadiens dans leurs avions, c'est eux qui leur donnent tous les renseignements. Sans l'armée française, l'armée tchadienne serait laminée et M. Déby perdrait le pouvoir. Et donc, connaissant ce contexte, M. Sarkozy, au lieu de condamner immédiatement et de faire condamner par ses ministres l'action de ces humanitaires, aurait dû dire à M. Déby, attention, nous ne nous prononçons pas sur les fautes qu'ont pu commettre l'Arche de Zoé et ses militants, mais s'ils ont des fautes, en attendant et avant que la lumière ne soit faite, nous vous demandons d'être extrêmement, prendre aucune mesure négative à leur égard, pas plus qu'à celle des autres Européens que vous détenez, à savoir l'équipage de l'avion espagnol et d'autre part trois journalistes français, car nous sommes particulièrement attachés à la santé et à la sécurité de nos concitoyens. Voilà ce qu'un gouvernement responsable doit faire, et diplomatiquement, c'est la seule chose
qui est réellement autorisée. On a l'impression que la situation se glisse carrément sous les pieds de votre gouvernement, et qu'il n'y a rien qui est fait, ou enfin, on ne sent pas une initiative qui est prise.
Ce qui est fait est mal fait, et c'est même fait de façon catastrophique, puisqu'on a vu par exemple à l'Assemblée nationale à Paris interrogée sur ce sujet Madame Ramayad, qui est un ministre, elle est secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme, et elle est africaine d'origine, elle est sénégalaise française maintenant, et elle est ministre donc en charge en quelque sorte de ce dossier. Elle a déclaré à l'Assemblée nationale, l'Afrique, je vais vous dire la citation exacte, l'Afrique de papa, c'est terminé.
Okay.
Alors, vous comprenez, avec ce genre de propos, on a vu immédiatement après les Tchadiens, qui ne sont pas idiots, se mettre à monter des manifestations dites spontanées de femmes, c'est-à-dire qu'ils les ont manipulées, qui ont dénoncé le colonialisme et l'esclavagisme de la France. Alors, vous imaginez ce que représente, c'est invraisemblable qu'une ministre qui d'ailleurs l'a fait sur ordre, parce qu'elle lisait un papier quand elle l'a dit, donc elle n'est pas seule responsable, mais qu'une ministre tienne des propos aussi insensés, qui ensuite mettent en danger la vie de nos compatriotes au Tchad, puisqu'il y a eu des manifestations, les gens étaient très remontés, etc., eh bien, moi je considère que une telle carence gouvernementale doit être sanctionnée, c'est absolument impensable. Quant à M. Sarkozy, il était en Corse en visite l'autre jour, et il a dit qu'il faut que cette affaire se termine sans que personne ne perde la face. Alors vous savez, la perte de face, c'est quelque chose à quoi ils sont très sensibles, les mandarins chinois.
Monsieur Reichmann,
il s'agit de preneurs d'otages.
On a aussi c'est grave là, ce que les autorités tchadiennes disent, là, enlèvement d'enfants, comme je vous disais, mais aussi le compte d'un réseau pédophile à l'endroit des responsables de l'opération. Oui. Hey, c'est grave, là.
C'est grave. Alors, ils ont retiré ces accusations par la suite, mais ils les ont quand même proférées. Pour l'instant, ils ne les accusent plus de cela. Mais nous avons vu des images intéressantes. On a vu hier soir sur les télévisions en France des images des familles des enfants, en tout cas des familles supposées, parce qu'on ne sait toujours pas si ces enfants ont vraiment père et mère ou simplement des familles qui sont susceptibles. Vous savez qu'en Afrique, la notion de famille est un peu différente de celle qui a cours chez nous et chez vous, mais il peut y avoir une famille, c'est peut-être aussi bien composé d'un oncle ou d'une tante.
Exact.
Mais ce qui est certain, c'est que ce sont les familles elles-mêmes qui ont remis les enfants à l'association L'Arche de Zoé.
Okay.
Et aujourd'hui, on nous explique que ces enfants avaient une famille et qu'ils n'étaient en haut, que les enfants n'auraient jamais dû partir. Mais c'est eux-mêmes qui les ont remis. Alors pour quelle raison, je l'ignore. Mais ça, on va le savoir, parce que ça ne va pas rester, cette affaire ne va pas rester en l'état. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que nous assistons à une incroyable carence des autorités françaises, depuis d'ailleurs les services de renseignement de l'armée qui est présente donc au Tchad, comme je vous le disais, en passant par la diplomatie française. Il faut savoir que l'ambassadeur de France au Tchad a condamné vigoureusement les gens qui s'étaient occupés des enfants. Mais vous vous rendez compte,
oui.
Ce type met son pied sur la tête de nos compatriotes. Enfin, c'est invraisemblable. Moi, je n'ai jamais vu un tel comportement. La France est dans une décadence invraisemblable.
Qu'est-ce qu'on peut suggérer, M. Reichmann? On envoie des mercenaires, un commando, je ne sais pas.
je pense que la France...
Est-ce qu'on règle ça par la force, M. Reichmann, selon vous?
Non, mais c'était inutile. La force, nous l'avons. Il fallait ne pas se laisser prendre en otage, et il fallait que le gouvernement français, surtout M. Sarkozy, puisque c'est lui-même qui s'occupe de tout en France, qu'il s'occupe de faire comprendre à M. Déby, et il n'était pas nécessaire de le crier sur les toits, un simple coup de téléphone aurait suffi, en lui indiquant, cher ami, s'il s'appelle cher ami, vous savez que nous avons une force aéroterrestre sans laquelle vous serez emporté. Bon, je vous recommande vivement de ne prendre aucune mesure et de faire en sorte que cette affaire s'achève sans qu'il y ait de grosses difficultés. Je peux vous garantir que l'affaire se serait terminée comme ça.
Ouais.
Mais malheureusement, la maladresse de Sarkozy est absolument invraisemblable.
Triste.
L'inexpérience totale. On a vraiment l'impression qu'il fait de la diplomatie exactement comme un camelot. Enfin, c'est invraisemblable. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Et là, je suis méchant pour les camelots, parce que les camelots sont souvent très habiles. Mais vraiment, je suis choqué de l'attitude du gouvernement français. Et d'opposition ou quoi que ce soit, je dis simplement parce que il en va de la sécurité d'un certain nombre de nos compatriotes, et puis surtout d'un principe. Aucun gouvernement au monde ne peut raisonnablement s'asseoir sur la sécurité de compatriotes à l'étranger.
Monsieur Reichmann, les auditeurs vous envoient des messages. Christian, t'en as un qui vient tout juste de tomber via le live @rockick.com. Est-ce que tu peux nous le lire, Christian? Est-ce que vous allez être d'accord ou pas avec les propos qu'on va lire? Monsieur Reichmann, à vous de nous le dire tout de suite après ce que Christian va lire.
Vas-y. Les membres de l'Arche de Zoé, on s'en fiche un peu. On ne va pas prendre fait et cause pour une de ces associations humanitaires que contribuent à africaniser la France, qu'ils croupissent dans les prisons tchadiennes et que ça serve de leçon aux autres. Et
qu'est-ce que vous en pensez, ça, M. Reichmann?
Je pense que c'est les personnes ou la personne qui a envoyé ce message...
Égocentrique?
Non, elle se place sur le terrain de l'immigration, qui est un autre terrain. Là, il s'agit de diplomatie et de l'image de la France dans le monde.
Okay.
Alors, bien entendu, on peut discuter du fait que l'immigration est excessive en France. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Je suis même le premier à le dire. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela. Même si ces gens croupissent, ou plus exactement, si on laisse ces gens croupir dans les geôles tchadiennes, ça voudra dire simplement que la France abandonne ses nationaux. Et la personne qui vient d'envoyer ce message, homme ou femme, si elle se trouve un jour à l'étranger, prise dans une affaire où elle n'est pour rien, mais où elle est en quelque sorte prise en otage,
oui,
bien, elle sera certainement contente de savoir que son gouvernement se soucie d'elle et ne veut pas l'abandonner. C'est le principe de base de tout gouvernement constitué, de tout gouvernement démocratique. C'est cela que je critique. Je ne dis pas
logique.
Que l'action humanitaire
logique.
A été indispensable. C'est un autre problème.
Oui, c'est tout à fait logique, M. Reichmann. Je pense que... Parce que moi aussi, un peu, je me disais, vraiment, ces gens-là, c'est eux qui ont décidé de ça devrait être en réalité leur responsabilité aussi d'assumer...
Oui, mais ça le sera. Non, mais ça.
Mais
vous avez raison, monsieur Trépanier.
Vous avez raison, par contre. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous avez raison de revenir sur le fait que l'image de la France est ternie d'une certaine façon à cause d'un, excusez-moi, mais je vais l'appeler comme ça, là, parce que je ne l'avais pas vu autrement, mais un plouc comme président tchadien qui fait exprès de désigner ces individus-là comme des salauds.
Oui, vous savez, ce type, contrairement à ce que vous croyez, n'est pas un plouc, c'est un homme extrêmement intelligent.
Ah, j'en suis persuadé, mais je trouve
qui a trouvé le moyen d'instrumentaliser une action humanitaire, même si les humanitaires ont pu commettre des fautes. Ça, je ne suis pas assez informé, et personne ne l'est d'ailleurs jusqu'à présent, parce qu'on n'a entendu aucune explication venant des membres actuellement prisonniers de l'Arche de Zoé. Il faut attendre qu'on puisse les interroger, et qu'ils soient interrogés par des gens dignes de foi, et non pas par les services tchadiens seulement. Et donc, une fois qu'on saura ce qui se passe exactement, on pourra se prononcer, mais moi je ne me prononce que sur le principe oui. qui veut que quand on a, à moins qu'il s'agisse d'assassins patentés qui sont recherchés par toutes les polices, auquel cas on se joint à cette recherche, mais quand il s'agit de citoyens dont l'innocence est présumée et qui sont pris en otage, parce que c'est le cas actuellement, dans un pays étranger, le gouvernement doit absolument se défier de toute action qui peut aggraver le sort de ces personnes, et doit faire savoir aux autorités concernés qu'ils ne laisseront pas faire s'il s'agit de faits qui sont répréhensibles au niveau de la morale internationale. Voilà, le fond du problème est là. Et vous savez, notre problème à nous en France actuellement, c'est que le pouvoir politique a perdu toute crédibilité dans cette affaire. Parce que comment voulez-vous que nous respections l'armée française qui n'a même pas réussi, je ne mets pas en cause les soldats bien entendu, mais l'organisation de l'armée française qui est présente au Tchad, qui a transporté ces personnes et qui n'a apparemment rien signalé à son ministère. Comment voulez-vous que nous prenions au sérieux les affaires étrangères?
Alors vous êtes en train de me dire, M. Reichmann, que le président du Tchad est brillant, c'est un homme brillant?
Écoutez, c'est un chef de guerre, c'est un
avant
personnage
tout.
Qui n'a évidemment pas les mêmes références que nous.
Voilà.
Mais ça n'est pas un pays démocratique,
c'est
un chef de bande.
C'est exact.
Mais il est intelligent et vous savez, il a fait des études, il a fait l'école de guerre en France.
C'est normal qu'il ait fait des études, M. Reichmann, avec l'argent du peuple, justement.
Oui,
qui...
Écoutez, ça, on peut placer mieux son argent éventuellement, mais... Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas un analphabète et ni un imbécile.
Je
n'approuve évidemment pas ce qu'il fait, mais il voulait absolument empêcher l'opération Eurofor, c'est-à-dire l'opération d'interposition entre le Darfour, qui est au Soudan, donc, et le Tchad, et pour réussir à se donner, il a utilisé cette affaire. Il est même certain que l'Arche de Zoé a fait des maladresses ou a commis des imprudences, mais il est certain que M. Déby a agi avec beaucoup de malice et qu'il a réussi de ce fait à mettre la France dans le plus grand embarras. Parce que, imagine, vous savez, cette affaire ne va pas s'arrêter comme ça. Bon, je pense que les pilotes ainsi que les journalistes vont être relâchés parce que Déby a très bien compris qu'il n'avait aucune raison de les retenir et qu'il valait mieux pour lui s'acharner sur ceux qui sont présumés avoir fait des fautes. Mais ne croyez pas que l'affaire va s'arrêter. Il y a en France beaucoup de gens qui ont soutenu l'action de l'Arche de Zoé, qui vont exiger des explications. Et il y a toute une série de ministères qui ont été impliqués dans cette affaire, qu'ils ont voulu dissuader l'Arche de Zoé d'agir de cette façon. Bon, très bien, mais quand il fait ensuite, qu'ont fait les services diplomatiques français, qu'a fait l'armée française au Tchad?
On me dit, Monsieur Reichmann, là, les auditeurs, vous faites réagir beaucoup les auditeurs aujourd'hui.
Oui.
C'est
un sujet brûlant, hein, c'est normal.
Tout à fait. Il faut rappeler aussi que la dernière fois que la diplomatie française a essayé d'aider des ressortissants français, c'est les prisonniers de Guantanamo, qui, au passage, ont presque été accueillis en martyrs, justement, au niveau des États-Unis.
Alors là, on se demande précisément.
Ouch.
Il y a deux poids, deux mesures, parce
que
là, ce sont des gens qui sont suspectés, en tout cas, ils sont suspectés de terrorisme pour le compte d'Al-Qaïda. C'est manifestement pas le cas des humanitaires de l'Arche de Zoé, qui sont peut-être des maladroits, peut-être même des pieds nickelés, comme disent certains, mais en tout cas, ce ne sont ni des assassins, ni des terroristes. Et donc, comment se fait-il? Mais si, je sais exactement pourquoi, c'est parce que dès qu'il y a des musulmans qui sont menacés, le gouvernement français qui tremble à l'idée que les musulmans français puissent se révolter, se rebeller ou entrer dans une de ces spirales de violence qu'on a déjà connues à l'automne 2005, eh bien le gouvernement français porte immédiatement fait et cause pour eux. Mais okay. Quand il s'agit de nationaux qui, eux, ne sont pas musulmans, on a l'impression que ce qu'il faut, c'est les condamner. Et on les fait condamner en plus au nom du colonialisme par une ministre qui est, après tout, issue du passé colonial de la France, dans la mesure où, oui, si elle est devenue française, c'est tout simplement parce que le Sénégal a été une colonie française et que son père d'ailleurs est un intellectuel qui l'a bien formé. Enfin, tout ceci est absolument malsain et scandaleux, et au plan des principes, vous comprenez, moi je ne me place qu'au plan des principes dans cette affaire. Bon, le jugement qu'on portera viendra ensuite lorsqu'on connaîtra les faits avec beaucoup plus de certitude, mais aujourd'hui, ce qui est certain d'ores et déjà, c'est que le gouvernement français et le président de la République se conduisent avec une incroyable légèreté et même une inconscience, parce que l'image de la France est ternie par cette affaire, et vous allez voir que va se développer inévitablement en France une polémique, oui, particulièrement virulente,
oui,
parce que il est quand même grand temps qu'on sache qui fait, oui, quoi et qui est responsable de quoi. On a des ministres qui ne sont jamais responsables de rien.
Mais Monsieur Reichmann, Nicolas Sarkozy ne fait que son travail. Vous savez, Nicolas Sarkozy ne fait que son travail. Il a même demandé là, que son salaire, d'être transparent sur son salaire. C'est un bon président de la France.
Il fait que son travail, mais je ne lui reproche pas. Je ne lui reproche pas de ne pas travailler, je lui reproche de faire des bêtises. Et quant à l'augmentation de salaire, c'est quand même assez cocasse, parce que, bon, certains disent même, mais là ce sont des mauvaises langues, c'est que son divorce lui coûte cher, il avait besoin immédiatement d'argent pour pouvoir payer la pension alimentaire de son épouse ou de son ex-épouse, puisqu'il est divorcé maintenant. Bon, tout ceci, ça pourrait appartenir à la rubrique people, mais en réalité ça appartient à la rubrique démocratique, parce que figurez-vous que ça n'est pas la première fois que des ministres ou des premiers ministres font payer la pension alimentaire ou les indemnités de leur épouse par le biais du contribuable. Je me rappelle que monsieur Juppé, quand il était premier ministre, avait divorcé de sa femme de l'époque et qu'il l'avait fait nommer inspectrice générale, je crois, de l'éducation nationale, me semble-t-il. En tout cas, je suis sûr qu'elle avait le titre d'inspectrice générale, et de l'avis des spécialistes de la question, elle n'en avait aucune capacité. Donc, en fait, il lui a attribué un poste qui était une forme de pension alimentaire, si vous voulez. Parce que quand on vous attribue un poste auquel vous ne pouvez pas prétendre, c'est une faveur.
Monsieur Reichmann,
s'il vous plaît, il y a une impudence incroyable de ceux qui gouvernent la France.
On a un autre message via le live quand même intéressant. Christian, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît?
Le gouvernement français savait parfaitement le but de l'opération. Il l'a laissé faire parce que Sarko Kouchner pensait faire un coup en récupérant de pauvres gosses du de Pau et PDT tchadien qui a compris tout ce qu'il pouvait tirer profit de l'affaire.
Vous en pensez quoi?
Je pense que c'est une hypothèse plausible.
C'est plausible?
Oui, c'est plausible, bien sûr. Je crois qu'en réalité, l'organisation L'Arche de Zoé n'a pas été dissuadée le moins du monde de poursuivre ses actions. Il est fort possible que le gouvernement français et penser que ses actions humanitaires pouvaient lui apporter un prestige supplémentaire. Aujourd'hui, nous savons que ça les gêne, parce que il se trouve que les Tchadiens ont réagi comme on le sait, mais en réalité, vous savez, nous sommes face à des gouvernements qui n'agissent que pour la communication. Donc tout ce qui est bon pour une communication est bon à prendre, ce qui est mauvais pour la communication, on s'assoit dessus. C'est-à-dire que c'est le contraire même de ce que doit être la mission d'un gouvernement. Un gouvernement doit savoir ce qui est l'intérêt de son pays et de ses habitants, et éventuellement, si la communication peut lui être favorable, tant mieux, mais faire passer la communication avant tout le reste, comme c'est le cas de M. Sarkozy. Donc vous savez, sa devise, je l'ai écrit dans mon article d'ailleurs, c'est une formule très connue,
oui,
et qu'il adopte: un événement médiatique par jour. Donc voilà la devise et le mode d'emploi du sarkozisme. Donc quand il faut qu'il y ait un événement médiatique par jour, puisque tous les jours, le bon peuple puisse s'extasier devant le talent, les capacités, le dynamisme ou l'image de son président. Eh bien, je suis désolé, mais un événement médiatique par jour, ça n'est pas un principe démocratique. C'est un principe, je dirais, d'intoxication, c'est un principe de communication. bon, que l'on communique est tout à fait normal, et même curieusement, on ne communique jamais sur les problèmes, on communique plutôt sur les faux problèmes, ce qui est le cas actuellement.
Exact.
À part que dans l'affaire de l'Arche de Zoé, ça n'est pas un faux problème. Là, c'est un vrai problème, mais si on le traite au niveau de la responsabilité de l'État français.
Beaucoup de personnes croient, M. Reichmann, que dans le fond, ces gens-là, ils se sont mis eux-mêmes dans le pétrin. Et ils devaient être au moins... ils auraient dû, être au courant que ce genre de situation-là pouvait se produire. Alors,
oui,
je ne sais pas.
C'est vrai, ça c'est vrai. Il est certain que ces personnes ont agi d'une part avec imprudence, d'autre part...
Ils ont été imprudents, il faut l'admettre.
C'est évident. Non seulement je l'admets, mais je suis le premier à le dire. Je suis absolument certain qu'ils ont été au moins imprudents, peut-être inconscients, peut-être estimaient-ils bien faire en enfreignant les règlements. Vous savez, leur raisonnement, si j'en juge à travers ce que leurs avocats ont dit ou leurs proches, c'était qu'il se passe des choses épouvantables au Darfour, les organisations humanitaires traditionnelles faillissent à leur mission, et donc il faut absolument, quels que soient les règlements, il faut passer outre, il faut sauver les enfants. Voilà ce qu'était leur raisonnement. Ils l'ont encore dit d'ailleurs, j'ai entendu une des personnes s'exprimer ainsi à la radio ce matin. Mais ça c'est une chose, mais ce que nous cherchons à juger en ce moment... Ça n'est pas le bien ou le mal fondé de l'association de l'Arche de Zoé, c'est le comportement du gouvernement tchadien par rapport à des citoyens français et européens, et l'attitude du gouvernement français par rapport à la sécurité et à l'intégrité d'un certain nombre de ces nationaux. Voilà le problème qui est posé. Et c'est un problème gravissime. C'est ce que je disais tout à l'heure à votre interlocuteur qui disait qu'il faut les laisser croupir dans les geôles tchadiennes. Eh bien, je répète à cette personne et à toutes celles qui nous écoutent que si ce principe devait prévaloir, ça voudrait dire que vous ne seriez en sécurité nulle part à l'étranger, parce que dès que vous mettriez le pied dehors, vous seriez les proies idéales pour des prises d'otages ou pour je ne sais quelles exactions, et les personnes en question auraient la certitude de n'avoir aucune représailles des autorités françaises. Donc c'est le fond même de l'attitude d'un gouvernement qui est mise en cause dans cette affaire, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement grave. Elle va bien au-delà du fait qu'une organisation humanitaire ait pu faire des fautes et pu être imprudente, voire complètement banquignole, comme certains le disent. Moi, j'attends d'avoir les explications là-dessus. Mais là où je suis formel dès maintenant, c'est que le gouvernement français s'est mal conduit jusqu'à présent, et qu'il est grand temps qu'il rectifie le tir, parce que sinon, le prestige de la France, qui n'est déjà pas très élevé compte tenu de la triste situation de nos finances publiques et du reste, va en prendre un coup de plus.
Monsieur Reichmann, merci. J'allais vous dire, c'est tout le temps qu'on avait, Monsieur Reichmann. Mais écoutez,
c'est moi qui vous remercie.
C'est moi.
Là, je vais vous poser une petite question technique, parce que vous savez que nous avons beaucoup de personnes qui suivent nos actions ici.
Oui, tout à fait, c'est le cas de le dire.
Et qui ne sont pas toujours disponibles à l'heure où nous émettons en direct, comme nous venons de le faire, et qui MP3. Et j'ai remarqué que les dernières émissions n'avaient pas encore été mises en MP3 par vos soins.
Effectivement.
Est-ce qu'il y a un problème?
Le problème était le suivant. Lors de nos interventions, nos dernières interventions, la dernière intervention va apparaître sous peu. Par contre, les premières émissions qu'on a fait ensemble, les premières interventions qu'on a fait ensemble, il y avait beaucoup trop de pof. La qualité était plus ou moins respectée.
C'est un problème technique. C'est un problème technique.
Oui,
voilà.
Mais
j'ai reçu beaucoup de mails et ou de lettres me disant, mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas vous écouter sur Rockick, etc. Alors, en tout cas en MP3. Donc voilà, je vais pouvoir leur apporter cette explication.
Exactement.
Ils seront rassurés.
Exactement. Alors, Monsieur Reichmann, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'entrevue de la semaine passée, oui, elle sera là. Là, on a arrangé un peu la configuration. Le son était meilleur ce coup-ci. Son était moins, c'est comme si les dernières fois, c'est comme si vous étiez très 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 loin de votre micro et que par moments ça revenait.
Problème technique. C'était bien.
Aujourd'hui c'était bien. La seule chose qu'il va falloir régler, c'est probablement votre micro casque qui fait énormément de pof. Alors on croit et de ce que les gens me disent, les gens croient que ce serait vraiment le micro-casque qui serait à vérifier, à savoir, parce que ça fait beaucoup, c'est simple, votre voix frappe, martèle beaucoup le micro. Et...
Je suis peut-être trop près du micro, alors je l'ai un petit peu éloigné maintenant, est-ce que c'est meilleur?
Ah ben oui, déjà là, on voit une différence. C'est sûr que si vous avez votre bouche directement dessus, c'est clair qu'il ne sera pas capable de se concentrer, il va absorber le son au maximum, et c'est là que ça va créer des fameux puffs. Dans le jargon radiophonique.
Monsieur Trépanier, nous avons quelques années devant nous. En s'améliorant
oui.
cette semaine, on va être parfait.
Exactement, Monsieur Reichmann, on a quelques années voilà. devant nous. Moi, j'en ai beaucoup aussi, oui, tout à fait.
Faut toujours être optimiste.
oui, certainement. Positif jusqu'au bout, Monsieur Reichmann. Merci.
Absolument.
On se reparle.
À
la semaine prochaine, Monsieur Reichmann. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Merci. Alors, c'était Claude Reichmann. C'était meilleur, ce coup-ci, Christian. Là. On peut pas dire que c'était aussi c'était aussi dégueulasse que les premières fois, mais on a configuré son Skype et la qualité est totalement différente là-dedans. Là. Oui, il y a des puffs encore, mais il reste juste ça à ajuster et les prochaines fois seront meilleures, j'en suis sûr.
Parce que la dernière fois, ce qu'on remarquait, c'est qu'à un moment donné, il parlait comme ça, puis là, tu te retrouvais que...
C'était le Skype a un compresseur et il est vraiment spécial, son compresseur, parce que des fois, on a l'impression qu'il s'éloigne et qu'il se rapproche.
C'est ça.
S'éloigne et qu'il se rapproche. Alors, voilà. Claude Reichmann, en direct de Paris. Le docteur Claude Reichmann, la révolution bleue Claude Reichmann, eh bien vous allez pouvoir sans problème réécouter les MP3 sur avec notre partenaire officiel LibertyVox. Oui, le www.libertyvox.com, c'est notre partenaire et vous pourrez entendre les entrevues de Best of toute la semaine sur le LibertyVox. C'est comme ça que ça fonctionne. Hey, merci d'être là en aussi grand nombre aujourd'hui. Je pense que c'est le Père Samuel ou peut-être encore André Arthur là.